Vous écoutez On lit pour vous.
Quand ton club de soccer impose une discipline de pro dès l'âge de 7 ans. Un texte de Philippe Martin, paru le 23 juin 2026 dans la presse. Philippe Martin est entraîneur bénévole au soccer et instructeur de taekwondo et de krav maga. C'est une scène qui se répète dorénavant sur nos terrains de soccer et qui devrait nous briser le cœur chaque fois. Un soir de semaine de printemps, deux enfants de 9 ans pleurent à chaudes larmes. Ils ne se sont pas écorchés le genou et ils n'ont pas reçu de ballon au visage. L'un pleure parce qu'il vient d'être relégué dans le groupe de Division 3, lui qui pourtant avait eu une excellente saison hivernale dans le premier tiers, fort de son groupe. Son tort? Avoir connu une baisse de régime lors des trois dernières semaines d'entraînement. L'autre passe de la Division 2 à la Division 1, mais il est maintenant séparé de ses amis et de l'entraîneur avec qui il avait créé un lien de confiance. Au fil de mes années, sur les lignes de touche à encadrer nos jeunes, j'observe une tendance lourde et profondément inquiétante. On applique de plus en plus à des enfants de 7 à 12 ans un modèle de gestion d'effectifs calqué sur celui des clubs professionnels. On brasse les groupes, on sépare les amis, on évalue la force du moment toutes les 3 à 6 semaines avec le couperet inévitable des promotions et des relégations. Parfois même, on leur impose un début de saison sans aucun coéquipier de leur équipe précédente ou de leur municipalité dans leur groupe. Pire encore, on favorise ceux qui ont suivi les programmes d'hiver au club. Résultat, on pénalise directement le jeune athlète qui a eu la très saine idée de diversifier ses activités, d'aller skier ou de jouer dehors tout l'hiver. Or, toute la littérature mondiale prouve que la spécialisation tardive et la pratique de plusieurs sports créent de bien meilleurs athlètes et préviennent les blessures. Ce biais punit ceux qui ont l'hygiène sportive la plus saine. Comme père et comme éducateur, je suis sidéré par cette mécanique purement administrative. Sous le noble prétexte du développement optimal du joueur, on oublie l'essentiel. À cet âge, on ne gère pas du capital humain. On accompagne des enfants en plein développement. De façon moins noble, on favorise les activités 12 mois par année pour garnir les coffres du club au détriment de multisports. Un jeune de cet âge ne vient pas au terrain pour peaufiner sa transition défensive ou maximiser son temps de possession. Il vient pour sa tribu. La littérature scientifique sur le développement psychologique et moteur est sans équivoque. Avant 12 ans, l'appartenance sociale est le véritable moteur de la motivation. Lui arracher ce filet de sécurité et cette identité d'équipe sous prétexte qu'il a raté quelques passes, c'est éteindre l'étincelle qui lui donne le goût d'apprendre. Les pleurs sont la réponse émotionnelle directe à la perte de sécurité affective. Un enfant jeté dans un groupe d'inconnus, avec l'épée de Damoclès d'un nouveau remaniement dans quelques semaines, passe en mode survie sociale. Son énergie cognitive est vidée par l'anxiété. Il ne lui en reste plus pour apprendre le soccer. Dans ce système de repêchage perpétuel, le terrain de soccer perd sa nature de jeu pour devenir une arène d'évaluation stressante. L'enfant n'ose plus rien. Fini la créativité, fini le droit à l'erreur. Une mauvaise performance est pénalisée par la sanction la plus cruelle qui soit pour un jeune, l'exclusion de son groupe de pairs. Comment espérer qu'il s'épanouisse s'il joue avec la peur au ventre d'être déclassé le mois suivant? Oui, la pédagogie exige qu'on stimule les jeunes avec des défis à leur mesure pour qu'ils ne s'ennuient pas. C'est l'esprit d'une division 1, 2 et 3, par exemple. Mais la dentelle du coaching, ne se fait pas à coups d'épée et de couperets. Les véritables milieux d'apprentissage créent des équipes stables, préservent les noyaux d'amis et font des ajustements à la marge, dont le dialogue et l'indulgence. On surclasse un jeune ponctuellement pour le stimuler ou on épaule celui qui a besoin de reprendre confiance à un niveau inférieur en minimisant la destruction de son tissu social. Cela doit se faire surtout par l'entremise d'une discussion bienveillante entre les coordonnateurs et les familles, et certainement pas avec un courriel générique annonçant que le jeune joue avec son nouveau groupe demain soir. Je ne sais pas sur quel modèle s'appuie Soccer Québec ou les clubs pour gérer nos jeunes joueurs comme des actifs boursiers qu'on déplace selon le rendement du mois. D'ailleurs, comme à la bourse, les sélections des analystes sont parfois nébuleuses. Mais pour les chercheurs canadiens Balich, McLaren, Raynham et Blanchard, Psychology of Sport and Exercise, 2014, le constat est clair. Les jeunes abandonnent le sport pour deux raisons majeures, soit le stress de performance qui tue le plaisir, soit la séparation d'avec leurs amis. Il est grand temps d'arrêter de se prendre pour des académies professionnelles. Sinon, ne nous étonnons pas de les voir raccrocher leurs crampons à l'adolescence ou même bien avant, complètement vidés de leur passion. Ramenons le plaisir, les amis et l'humain au centre du terrain et les sourires aux parents dans les gradins. C'était « Quand ton club de soccer impose une discipline de pro dès l'âge de 7 ans », un texte de Philippe Martin paru le 23 juin 2026 dans La Presse.
Le vrai danger n'est pas dehors. Un texte de Jean-Pierre Serra, paru le 25 juin 2026 dans La Presse. Alors que l'année scolaire vient de s'achever, c'est le moment idéal pour faire le bilan de l'une des mesures qui a fait couler le plus d'encre en août 2025, l'interdiction des cellulaires à l'école. Avez-vous entendu parler de l'épidémie d'anxiété chez les jeunes privés de leur doudou électronique? Des enseignants qui n'en peuvent plus de jouer à la police? Des parents en panique parce qu'ils ont perdu le lien de contact instantané avec leurs enfants? Moi non plus. La catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. C'est presque comme si les jeunes avaient une capacité d'adaptation, que si on leur enlevait la possibilité de passer leur journée sur leur téléphone, ils trouveraient autre chose à faire. Un jeu de société, un sport, un club, ou simplement parler avec la personne en face d'eux qui est soudainement disponible. Cette réussite m'en fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour aider les jeunes à décrocher de leur cellulaire? Avec l'été qui arrive et des milliers de jeunes qui ont soudainement beaucoup plus de temps libre, je me suis demandé quel rôle les villes pourraient jouer pour les encourager à sortir davantage et à passer moins de temps devant leurs écrans. Tout le monde le sait. L'utilisation excessive du cellulaire nuit gravement aux jeunes. Plus ils y passent de temps, plus leur sommeil en souffre, plus ils se comparent aux autres, plus ils s'isolent. Dans son livre « Génération anxieuse », Jonathan Haidt rappelle que ce qui manque cruellement aux jeunes d'aujourd'hui, c'est le jeu libre. Jouer dehors, inventer des règles, prendre de petits risques, se chamailler et se réconcilier. Tout ça, ce sont des apprentissages essentiels pour développer leur autonomie et leur confiance. Quand ces moments disparaissent, remplacées par des heures de scrolling sans fin, les jeunes perdent une partie de ce qui fait grandir. Vous connaissez sûrement cette illustration d'une maison avec une pile de vélos devant. Le texte dit « Dans les années 1980, c'est comme ça qu'on savait où étaient nos amis. » J'ai eu cette chance-là. J'ai grandi dans le petit village de Saint-Jovite, dans les Laurentides. C'était exactement ça. Comme dans Stranger Things. Mais en mieux, puisqu'on n'avait pas de démogorgon ni de laboratoire clandestin dans le voisinage. Enfin, pas que je sache. Sans trafic et avec tous nos spots à proximité, nous pouvions nous déplacer librement, à pied ou à vélo, pour aller jouer, socialiser et explorer. Ça fait maintenant presque 30 ans que je vis à Montréal. Et c'est ici que j'ai fondé ma famille. Jusqu'à tout récemment, je n'aurais jamais envoyé mes jeunes ados à vélo, seuls, pour aller chez un ami, à un entraînement de soccer, ou même à l'école. L'argument de la liberté. Mais l'arrivée des pistes cyclables a tout changé. Les enfants de plusieurs quartiers montréalais n'ont jamais été aussi en sécurité pour se déplacer. Toutes les études le confirment. Une piste, c'est plus sécuritaire que pas de piste. Dans les débats sur les pistes, on ne mentionne pas l'argument de la liberté des enfants assez souvent. Chaque fois que quelqu'un le mentionne, ça résonne en moi. Quand on a annoncé qu'à Verdun, dans mon quartier, on allait aménager une piste cyclable tout le long de la rue de Verdun, tout le débat tournait autour de « Pourquoi dans cette rue-là et pas ailleurs? » L'argument qui m'a convaincu venait d'un élu qui a dit tout simplement « Parce qu'il y a 5 écoles dans cette rue. » 3 ans plus tard, la preuve est là. Chaque jour, avant et après les classes, les pistes sont pleines d'enfants qui se rendent à vélo, parfois seuls, parfois accompagnés de leurs frères, sœurs ou voisins. Et si on extrapolait ce concept pour que les enfants soient libres d'aller où ils veulent, sans dépendre de leurs parents? En multipliant ces environnements sécuritaires, on donne aux jeunes la possibilité d'aller seul à la bibliothèque, au parc, chez un ami ou au skatepark. Et quand on y pense, un jeune qui a la liberté de se déplacer quand il le veut et où il le veut sera moins porté à passer tout son temps à la maison, collé à un écran. Donc, voilà ma piste de solution. Si on veut lutter contre la dépendance au cellulaire, il faut non seulement créer des lieux où les jeunes peuvent se retrouver et s'amuser sans écran, mais aussi leur donner les moyens d'y accéder par eux-mêmes, sans dépendre de leurs parents pour chaque déplacement. On croit souvent que le danger est dehors. Mais si un enfant n'a pas la liberté de sortir au moment où il doit apprendre à être indépendant, il risque surtout de s'enfermer devant ses écrans. Et ça, c'est sûrement le plus grand danger de tous. C'était « Le vrai danger n'est pas dehors ». Un texte de Jean-Pierre Serra, paru le 25 juin 2026 dans La Presse.
La facture salée de la crise du logement. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Une étude à grand déploiement s'attelle à chiffrer les conséquences économiques et sociales de la crise du logement au Québec. Les premiers résultats sont sans équivoque. L'inaction coûte cher à l'État. Pénurie de logements abordables, rénovictions, hausse des loyers, surenchères immobilières. Le Québec traverse actuellement une importante crise du logement. Alors qu'approche la saison des déménagements, un locataire sur cinq dans la province peine à payer son loyer, selon un sondage léger mené pour l'organisme Vivre en ville. Au-delà de la détresse psychologique et de la précarité financière qu'elle engendre chez les plus vulnérables, la crise du logement coûte cher à l'État. C'est ce que démontrent les premières données de l'étude collaborative « La facture collective de la crise du logement au Québec », menée par l'Observatoire québécois des inégalités, OQI, et la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé de l'UQAM, RIS, en partenariat avec six directions régionales de santé publique au Québec, qui financent le projet. Afin de produire une analyse détaillée des ramifications socio-économiques de la crise du logement, cette vaste étude menée sur 2 ans se décline en 7 volets. Prospérité économique, santé physique et mentale, itinérance, développement des tout-petits et performance scolaire, violence domestique, consommation énergétique et insécurité résidentielle. Au moment où ces lignes étaient écrites, les résultats des 2 premiers volets avaient été rendus publics. La publication du rapport final, qui sera accompagnée de recommandations, est attendue pour l'hiver 2027. Québec Science s'est entretenu avec 2 membres de l'équipe de recherche affiliée à l'OQI, la sociologue Sandy Torres et l'économiste Geoffroy Boucher. Québec Science. La crise du logement fait la manchette depuis quelques années. Comment décririez-vous la situation actuelle? Sandy Torres. La situation est loin d'être réglée, car il persiste une crise de l'accessibilité financière. Présentement, il y a des mises en chantier records. On construit beaucoup de logements locatifs, mais ça ne résout pas le problème de l'abordabilité. Les taux d'inoccupation ont augmenté, mais seulement pour les logements dont le loyer est au-delà de 1 500 $ par mois. Ceux des logements à prix plus raisonnables restent très bas. Au moins, il y a maintenant un consensus sur le fait qu'on vit une crise du logement, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2022. Geoffroy Boucher. Certains indicateurs de cette crise étaient perceptibles avant la pandémie, notamment les faibles taux d'inoccupation pour des fourchettes de loyers plus basses. Un autre aspect qui fait mal est la hausse cumulative des loyers. De 2020 à 2025, l'ensemble des coûts liés au logement, tels que mesurés par l'indice des prix à la consommation, a augmenté de près de 30 %. Québec Science. L'automne dernier, le rapport du premier volet de votre recherche portant sur la prospérité économique concluait que les personnes qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement se privent collectivement d'injecter 4,2 milliards par année dans l'économie québécoise. Le 2e volet, concernant les coûts en santé, publié en décembre 2025, a mis en avant que la crise du logement coûte 2 milliards annuellement au système de santé. Avez-vous été surpris par ces résultats? Geoffroy Boucher. Pour ce qui est de la prospérité économique, on s'y attendait, parce que le logement est le principal poste de dépenses des ménages au Québec. La somme de 4,2 milliards correspond aux dépenses que les ménages ne peuvent pas investir dans d'autres secteurs de l'économie, car 500 000 de ménages québécois se retrouvent dans des logements jugés inabordables et dépensent plus de 30 % de leur revenu total en frais de logement. Sandy Torres. Pour la santé, je dirais que la somme de 2 milliards est largement sous-estimée, car c'est une extrapolation. Notre calcul tient compte du coût des services de première ligne, comme les consultations médicales et psychosociales, mais pas des hospitalisations, des médicaments ni d'autres facteurs. Geoffroy Boucher. En santé, j'ai été surpris d'apprendre que les mauvaises conditions de logement, note de la rédaction, humidité, moisissure, infestation, mauvaise qualité de l'air, etc., prive la population québécoise de l'équivalent d'un mois de vie en bonne santé par année. Ça permet de prendre la pleine mesure du phénomène. Québec Science, quelle a été votre démarche pour arriver à de tels résultats? Sandy Torres, la démarche est assez complexe. En somme, on procède d'abord à une revue de la littérature pour examiner les liens entre les difficultés de logement et la thématique étudiée. Ensuite, une modélisation est faite grâce à des analyses statistiques et on détermine la part de l'enjeu donné attribuable au logement. Geoffroy Boucher. Les méthodologies sont différentes pour chaque volet, mais nous nous basons sur des données existantes. Par exemple, pour calculer le coût de la crise du logement sur la santé, on a utilisé les données de l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes de Statistique Canada. En isolant certaines variables socio-démographiques, nous avons pu calculer l'effet des conditions néfastes de logement sur l'état de santé des individus, puis établir que les mauvaises conditions de logement étaient responsables de 30 % des cas de mauvaise santé déclarés au Québec. La méthode dite des fractions attribuables, une méthode fréquemment utilisée en santé publique pour estimer l'association entre l'exposition à un facteur de risque et la santé des personnes exposées, nous a ensuite permis de convertir les risques relatifs déterminés dans notre analyse à ce qui peut être réellement attribué à la crise du logement. Vous écoutez « La facture salée de la crise du logement », un texte de Marie-Lise Rousseau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Québec Science, que pouvez-vous dévoiler sur les autres volets en cours d'analyse? Sandy Torres, nous ne sommes pas encore en mesure d'avancer des coûts pour les prochains volets. Pour ce qui est de la violence domestique, nous exploitons les données de l'enquête québécoise des violences commises entre partenaires intimes de l'Institut de la statistique du Québec. L'objectif est de mesurer à quel point le manque de logement adéquat augmente les facteurs de risque de violence. Pour mener nos calculs, nous prendrons en compte divers facteurs, comme le surpeuplement et la taille insuffisante des logements, en plus de la littérature à ce sujet. Geoffroy Boucher. Nous nous intéresserons, entre autres, à la façon dont la situation financière d'une personne peut influencer sa décision de rester ou pas dans un domicile malgré des situations de violence. Pour ce qui est de la consommation énergétique, nous avons créé un indice composite avec différentes dimensions pour venir qualifier les logements du Québec d'efficaces ou non sur le plan énergétique, étant donné que les frais de chauffage, d'électricité et d'eau chaude font partie intégrante des dépenses liées au logement. Pour ce faire, on tient compte de plusieurs paramètres. Le type de logement, l'année de construction, les rénovations, le système de chauffage, l'isolation, etc. Pour ce volet, nous allons mobiliser l'enquête sur les ménages et l'environnement de Statistique Canada. Québec Science. Viendront par la suite les analyses chiffrant les impacts de la crise du logement en ce qui a trait à l'enfance, l'itinérance et l'insécurité résidentielle. Où en sont vos travaux à cet égard? Geoffroy Boucher. Pour ce qui est de l'itinérance, le travail a débuté, mais nous attendons d'avoir accès aux données du plus récent dénombrement des personnes en situation d'itinérance réalisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux au printemps 2025, pour être le plus à jour possible. Différentes évaluations des coûts de l'itinérance ont déjà été réalisées. Notre objectif est de calculer l'apport de ces coûts attribuables à la crise du logement. En ce qui concerne le développement des enfants, les analyses n'ont pas débuté, mais nous allons notamment nous baser sur l'enquête longitudinale sur le développement des enfants au Québec de l'Institut de la statistique du Québec pour voir comment certaines conditions de logement durant l'enfance peuvent avoir un impact sur les vulnérabilités et le parcours de vie par la suite. Sandy Torres. Les volets nommés jusqu'à présent sont quantitatifs, mais notre recherche comprend aussi un volet qualitatif qui porte sur l'insécurité résidentielle. Il est mené par Janie Houle, psychologue et titulaire de la chaire RIS, dont le travail se base sur des entretiens avec 60 locataires qui craignent de perdre leur logement. Au terme du projet, nos résultats seront mis en commun, ce qui nous permettra de proposer des pistes de solutions. Québec Science. Quels sont les bénéfices de chiffrer les coûts de la crise du logement comme vous le faites dans le cadre de cette recherche? Geoffroy Boucher. Ça nous permet de parler le langage des décideurs et de mettre au clair que l'inaction a un coût. Sandy Torres. On estime que les chances d'avoir une oreille attentive sont plus élevées si on annonce que ça coûte des millions ou des milliards à différentes échelles. Au-delà des nombreux impacts sociaux déjà documentés qui découlent des problèmes de logement, ces données ont un pouvoir de persuasion. Geoffroy Boucher. Le titre de la recherche, « La facture collective de la crise du logement », l'explique bien. La crise du logement nous coûte cher collectivement. Si la facture est collective, les solutions doivent également l'être. C'est pour cela qu'on interpelle les décideurs et que le rapport final du projet contiendra différentes pistes de solutions dont on va avoir modélisé l'impact. Québec Science. Avez-vous des échos de la part de la classe politique jusqu'à présent? Geoffroy Boucher. On sait que les premiers résultats de la recherche se sont rendus à certains acteurs politiques. Toutes les directions régionales de santé publique impliquées dans la recherche disséminent l'information jusqu'aux décideurs. Mais nous n'avons pas encore eu de rencontre avec des représentants du gouvernement pour échanger sur les résultats. Sandy Torres. On constate en revanche que nos analyses sont très utiles pour les groupes communautaires, notamment ceux dans le domaine de l'habitation. Ça leur permet d'étayer leurs argumentaires et leurs plaidoyers. Québec Science. Comment expliquez-vous la timidité des gouvernements en poste à prendre des mesures concrètes pour résoudre la crise du logement malgré les dépenses publiques importantes qu'elle occasionne? Sandy Torres. Le logement est encore très attaché à la notion de propriété. C'est une source d'enrichissement et d'inégalité. Ça prendrait un changement de paradigme profond pour le considérer autrement que comme un bien de consommation. Par ailleurs, le logement est un déterminant fondamental de la santé. Si on agissait sur les mauvaises conditions de logement, on agirait en prévention en santé et donc, collectivement, il en coûterait moins cher à la société. C'était « La facture salée de la crise du logement », un texte de Marie-Lise Rousseau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.